Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
On dit souvent que les murs ont des oreilles.
Là-haut sur la colline.
Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
Et bonjour Patrick Taillon.
Bonjour Antoine.
Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Deux sujets stimulants, bien que récurrents aujourd'hui, oui. Mais il y a toujours de la nouveauté dans ces sujets-là. C'est la laïcité et l'aide médicale à mourir et tu vas... faire ressortir là, certains angles juridiques et constitutionnels dans ces deux sujets-là. On commence par la laïcité, parce que oui. Le projet de loi pour renouveler la disposition de souveraineté parlementaire, comme on dit poétiquement, ou la disposition de dérogation, comme on dit aussi, ou la clause en obstant, comme on disait il y a 30 ou 40 ans, il a été déposé ce projet de loi-là pour... protéger la loi sur la laïcité.
Oui, il est tout frais d'aujourd'hui, en tout cas au moment où on enregistre, projet de loi 52. Un projet de loi qui tient deux articles, hein, c'est tout simple. On prend une des deux dérogations, celle à la Charte canadienne, on la renouvelle pour 5 ans, quelque chose qu'on risque de devoir faire à nouveau pour la loi 96 d'ici le 1er juin 2026, puis éventuellement aussi là, pour la loi sur la laïcité. Peut-être juste deux remarques. D'abord, faut attirer l'attention sur la position courageuse de Québec solidaire.
Mais oui.
Tu as écrit sur le sujet ce matin. Une position courageuse qui consiste là à renforcer le consensus québécois quant à sa capacité de déroger à la Charte canadienne, puis en même temps, un appel et un désir à développer un modèle québécois propre en matière de droits et libertés, ce que certains appellent, c'est un peu technique, mais une autonomisation de la Charte québécoise. Tu as raison dans ton texte, dans ta chronique de jeudi matin, de souligner que cette position-là, bien que souhaitable, là, de renforcer la Charte québécoise, elle a un angle mort. Il faut pas se bercer de certaines illusions.
Oui, attends, je veux juste dire, c'est courageux parce qu'ils sont opposés à cette loi-là. Ils ont voté contre.
Bien sûr, mais ils sont contre là, sur le fond.
C'est comme s'ils disaient, ben, on a quand même le droit comme Québécois de déroger à la Charte fédérale et c'est ici que le débat doit se faire. Donc, j'ai trouvé ça courageux puis oui. Intéressant comme parce que c'est un geste, disons, autonomiste, faute oui. de meilleurs qualificatifs. Mais là, ça a évolué. Ils viennent d'envoyer une réaction.
C'est normal qu'à l'interne, cette position-là suscite, besoin de faire des ajustements. Il faudra voir à l'intérieur du caucus.
Parce qu'il y a eu un texte de Geneviève Lajoie hier matin. Moi, oui. j'ai écrit ma chronique hier, donc mercredi après-midi, puis publié ce matin, donc geste courageux de Québec solidaire. Mais là, cet après-midi, on sent qu'à Québec solidaire, on est mal à l'aise avec cette position-là. Alors, je t'en donne
l'opposition,
la parole,
c'est fait pour s'opposer. Oui. Et donc, d'appuyer le gouvernement de la CAQ sur un sujet aussi sensible, sur une question de principe, ça prend du courage. Et maintenir cette position-là dans le temps, ça va en demander. Déjà, à l'intérieur du caucus, sûrement qu'il y aura des gens qui vont chercher à vouloir peut-être nuancer le message, mais le vrai choc de la réalité, le vrai test de la réalité, ce sera devant les militants. On se rappelle que le caucus de Québec solidaire a déjà été désavoué, en quelque sorte, par ses membres sur oui. des questions relatives, sur la position relative à la laïcité. Mm-hmm. Et donc, c'est le vrai test va venir dans quelques semaines. Comment le cœur, comment les militants du parti vont vivre avec cette position-là, ça sera à suivre. Sinon, écoute, sur le projet de loi 52, c'est technique sur le plan juridique, mais moi, j'aurais préféré un dispositif un petit peu plus créatif.
Ah bon?
Un peu plus imaginatif. On en avait déjà parlé à ce micro. Là, on est dans une logique où il va falloir, de manière récurrente, déroger, au moins pour deux lois, la loi sur la langue française et la loi sur la laïcité. Moi, j'aurais aimé un dispositif un petit peu plus ambitieux qui aurait modifié, au fond, la procédure parlementaire.
Ah bon?
Pour faire en sorte que, justement, puisqu'il est question de la souveraineté du Parlement, ben obliger le Parlement, évidemment, on peut pas obliger le Parlement futur à déroger. Là. Ça, c'est sûr que c'est impossible.
Mais non, on peut c'est obliger... un choix des parlementaires de voter ou non pour une loi, oui.
On peut obliger le Parlement de demain à débattre de cette question, à se saisir de cette question. Donc, au même titre que la procédure parlementaire oblige un nouveau Parlement à débattre d'un discours d'ouverture, qu'on appelait jadis discours du trône, mm-hmm. ben on pourrait imposer à tous les 4 ans au Parlement québécois de faire le point, faire le ménage, faire l'inventaire des dérogations, puis de se prononcer sur lesquelles on souhaite voir le renouvellement et lesquelles on veut abandonner. Mm-hmm. Et ça, je pense que c'est bon à la fois pour ceux qui croient dans le dispositif de la dérogation, mais aussi pour ceux qui s'en méfient. Faut pas que les dérogations tombent un peu dans l'oubli. C'est à l'endroit de la Charte québécoise, on n'a pas besoin de les renouveler. Donc, c'est intéressant quand même qu'on se penche sur cette situation-là. Puis, on veut aussi éviter ce qui s'était passé quand il y a eu alternance du gouvernement Lévesque au gouvernement Bourassa. C'est-à-dire qu'on avait des dérogations, puis le gouvernement Bourassa a juste pas renouvelé, mais sans assumer publiquement son choix.
Donc, oui, parce qu'il faut rappeler que René Lévesque avait décidé de mettre une disposition de dérogation de souveraineté parlementaire partout, dans toutes les nouvelles lois adoptées à partir de 1982.
Donc,
pour protester contre le rapatriement de la Constitution puis l'enchâssement de la Charte.
Il s'agit de questions très importantes. La question des droits et libertés, la question de la souveraineté du Parlement. Donc, peut-être qu'il faudrait modifier la procédure pour s'obliger à en parler, pour que ouais. jamais ça tombe dans l'oubli. Sinon, toujours sur la laïcité, mais à Ottawa. Des choses vraiment intéressantes, Antoine.
Ah oui?
La semaine passée, au caucus du Parti libéral du Canada.
Qui aime pas la clause dérogatoire.
Eux autres, et qui n'aime pas la loi sur la laïcité, mais déteste encore plus la disposition de dérogation. Ouais. On a lancé une idée nouvelle. Modifier la Constitution du Canada. Une idée folle. Une idée audacieuse. Pourquoi modifier la Constitution du Canada? Pour empêcher la dérogation, du moins l'encadrer. Et je dois t'avouer que c'est une excellente idée à mes yeux, Antoine, parce que au lieu de faire ce que plusieurs proposent, c'est-à-dire demander aux tribunaux de réécrire la Constitution pour inventer des limites à la dérogation, mm-hmm. là, la classe politique canadienne, du moins le caucus du Parti libéral, se comporte de manière responsable. Il dit, ben, on va faire le débat, on a le pouvoir, on devrait en s'engager dans une révision de la Constitution. Mais là, faut que je t'explique pourquoi ça se produira pas. Évidemment, c'est pas juste parce que c'est compliqué de modifier la Constitution. Parce qu'ici, c'est pas si compliqué, là. Ça prend seulement 7 provinces, représentant 50% de la population, puis le fédéral. Est-ce que, peut-être pas le gouvernement Trudeau aujourd'hui, qui vit une certaine impopularité, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'un gouvernement fédéral est capable de réunir l'appui de 7 provinces? Mmh. Je pense que oui.
C'est mais pas, vrai, pas, excuse-moi, ça serait pas l'unanimité? Ici,
non, pas pour une question comme ça.
Il y a plusieurs manières de modifier la Constitution.
C'est ça. Donc, je pensais et on est obsédé l'unanimité. Par le fait que ça a pris l'unanimité pour Meach et Charlottetown. On pense que ça prend toujours l'unanimité, mais c'est pas le cas.
C'est pas le cas.
Ici, 7 provinces, ce serait suffisant. Mais ce que les députés libéraux fédéraux ont oublié, c'est que la Constitution de 82 qu'on a imposée au Québec sans son consentement,
oui.
Elle nous désavantage à bien des égards, mais des fois, il y a des petits prix de consolation, des petites miettes pour le Québec là-dedans.
Ah bon?
Et une des petites miettes qu'il y a, là, c'est un droit de retrait dès qu'on nous enlève du pouvoir.
Le droit de retrait avec compensation.
Attention, mon oncle 101, un opting out pour ceux qui comprennent mieux le chinois. Donc, l'idée que le changement s'opère, mais ceux qui exercent le droit de retrait peuvent se soustraire au changement. Donc ça veut dire que si un jour la classe politique canadienne décidait de éliminer la dérogation ou de l'encadrer, ben le Québec, avec son Assemblée nationale, pourrait dire, ben parfait, ça c'est un changement qui va s'appliquer ailleurs au Canada. Mais nous, on va s'y soustraire et on va conserver notre souveraineté parlementaire.
Je savais pas qu'on pouvait faire ça avec une disposition de la Charte des droits.
Oui, et ça explique pourquoi des fois certains changements ne se font pas, parce que de toute façon, si les provinces peuvent s'y soustraire, alors voilà un peu pourquoi l'idée risque de mourir. Mais
peut-être oui. Une petite parenthèse, il y a Paul Martin qui avait promis ça, de se débarrasser de la disposition de dérogation en 2006, exact, si je ne m'abuse.
C'est une vieille idée. Paul Martin avait proposé ça au moment de sa réélection. Il avait perdu les élections. Le chemin qu'il empruntait était différent. Il proposait ce que moi j'appelle une réforme paraconstitutionnelle. Ce n'est pas une réforme de la Constitution. Il disait, je vais adopter une loi ordinaire pour empêcher le gouvernement fédéral de faire une loi qui permettrait de déroger. Okay. Donc, c'était un mécanisme plus mou, là, mais oui, il avait proposé quelque chose. Mais ce qui est intéressant, c'est que le caucus libéral a débattu de cela.
Oui.
Parce que l'ex-ministre libéral de la Justice, David Lametti,
oui,
en avait parlé dans sa lettre discours de démission.
Oui, oui, sa fameuse lettre, oui.
Une lettre où on voit un peu plus certains désaccords entre le ministre Lametti et Justin Trudeau.
Ben oui.
Et on dirait que les relations avec les ex-ministres de la Justice sont toujours difficiles pour Justin Trudeau. Hein. On se rappelle les relations tendues avec Judy Wilson-Raybould. Là, David Lametti, ça se gâte. Mais c'est ça. David Lametti lance cette idée qu'on devrait, sur la dérogation, non pas aller devant les tribunaux, mais plutôt emprunter la voie politique. C'est un message qui est différent de celui de Justin Trudeau. C'est un message qui est pertinent. Et ça nous rappelle que David Lametti, toute chose étant égale par ailleurs, là, à l'échelle de c'est quoi être pro-Québec dans un caucus libéral fédéral. Mais il y en a là, des députés plus favorables aux intérêts du Québec là, dans le caucus libéral fédéral. Ben, je crois que quand on regarde les choses aujourd'hui, on peut se dire qu'il aura fait partie de cette branche peut-être un peu plus favorable au Québec.
Ah bon?
Il a approuvé la manière de faire, pas le fond, mais il a dit que le Québec avait le droit de modifier le texte de 1867
oui, c'est
pour
vrai.
Inclure nation, langue et serment au roi. Abolition du serment au roi. Mm-hmm. Il a repoussé dans le temps l'intervention fédérale devant les tribunaux dans le dossier de la loi 21. Et c'est ça un peu la rumeur qui tourne autour de son départ, c'est que on l'aurait remplacé par un ministre qui, par rapport à la question de la dérogation de la loi 21 et du Québec, est davantage intransigeant et davantage sur la ligne dure. Donc ça va être à suivre, mais c'est un aspect qui est quand même assez intéressant de cette saga entourant la dérogation et la loi 21.
Mais oui. Patrick, parlant de laïcité, qu'est-ce qui se passe avec la décision de la Cour d'appel sur la loi 21? Parce que ça fait des mois qu'on l'attend, non?
C'est long.
Il y a toutes sortes de sources qui disent « Ah, c'est imminent », mais ça vient pas.
C'est long, puis c'est longtemps. Là. Novembre 2022. Oh. On est rendu en février 2024. C'est un banc exceptionnellement de 5 juges. Normalement, quand on va à la Cour d'appel, on en a 3. Sur des questions extrêmement politiques, notamment pour donner l'impression que le droit, c'est une vraie science, puis que c'est pas des décisions politiques qui sont rendues. Les juges vont traditionnellement essayer de faire un effort pour rendre une décision à l'unanimité. Par exemple, renvoi sur la sécession du Québec, décision à l'unanimité. Parce que sinon, ça saute tellement aux yeux qu'il y a une dimension politique que cette exigence, qui est pas une exigence juridique, de consensus, s'impose souvent parmi les juges. Okay. S'il faut s'entendre à 5 juges, ça se peut que ça soit la raison du retard.
Ils sont 5 à la Cour d'appel, là, c'est ça?
Oui. Mon hypothèse, Antoine, ce n'est pas une information, ce n'est que de la spéculation.
Ah bon, OK.
Mais mon petit doigt me dit, un peu comme dans le renvoi qui avait précédé le rapatriement de la Constitution, là, celui dont Frédéric Bastien nous parle dans son ouvrage. Là,
celui de 1981.
Exactement. On avait eu une Cour suprême extrêmement divisée. Il fallait additionner les duos de juges pour arriver à une majorité qui pensait pas pareil selon les arguments.
Okay.
J'ai l'impression qu'on a des juges qui sont prêts à invalider la loi 21 malgré la dérogation, mais qui s'entendent pas sur le chemin intellectuel pour s'y rendre.
Aha.
Regarde dans le passé jusqu'à présent dans le dossier. On a 2 juges, la juge Duval-Essler en appel sur une question provisoire, puis le juge Blanchard en première instance, qui ont chacun accepté un argument des opposants. Mais dans le buffet des arguments des opposants, là, il y a tellement de choses différentes que quand on rentre dans ce buffet des opposants, on veut pas toujours manger le même plat.
Ah, c'est ça. Ils n'ont pas les mêmes arguments.
La juge Duval-Essler a donné raison aux opposants sur une question d'une disposition d'interprétation sur l'égalité homme-femme. Le juge Blanchard, lui, a donné raison aux opposants sur la question de la langue. Résultat des courses, le juge Blanchard et la juge Duval-Essler sont en désaccord. Et donc, nos cinq juges de la Cour d'appel, est-ce possible qu'ils soient prêts à défier l'Assemblée nationale du Québec puis à invalider la loi,
ouais,
mais que la chicane pogne entre eux quand vient le temps de dire c'est lequel l'argument sérieux qu'on c'est nous ça. A soumis, qu'on va décider de suivre? C'est mon hypothèse, ce n'est pas une information, mais je ne serais pas surpris qu'on ait une décision avec des dissidences et avec des voix argumentatives concurrentes.
Parlons d'aide médicale. Enfin, l'aide médicale à mourir. Les ministres du gouvernement Legault, hier, ont fait un point de presse. Encore une fois, ils demandent à Ottawa d'harmoniser de manière explicite le code criminel à la loi québécoise sur ce qu'on appelle les directives anticipées. Là, c'est ce qui est, c'est un peu le testament biologique dont on parle parfois, c'est-à-dire que quand on est bien, on se dit, ben si un jour... j'ai l'Alzheimer, par exemple. J'aimerais qu'on mette fin à mes jours. Donc,
est-ce qu'on peut consentir à l'avance?
C'est ça.
Et il est question de consentement dans le code criminel, puis il est question de consentement dans nos lois.
Ouais.
Et là, au fond, moi, je suis de ceux qui disent, ben, la job du fédéral, c'est de décriminaliser. Puis si il nous parle de consentement, puis sans nous donner de précision. Ben, la compétence du Québec en droit civil, en droit de la santé, sur les ordres professionnels, c'est à nous de définir c'est quoi un consentement. Mmh. Mais il y a des professionnels qui s'inquiètent et qui disent non, on voudrait que le code criminel soit explicite, noir sur blanc, on veut que ça soit écrit. Donc, par prudence, trois ministres du gouvernement Legault demandent à Ottawa de harmoniser sa loi. Hypothèse possible, est-ce une façon de gagner du temps? C'est ce que diront peut-être les plus cyniques, mais moi je leur donne le bénéfice du doute parce qu'il y a déjà un projet de loi à la Chambre des communes. Puis c'est vrai
qu'on en discute. Là.
C'est vrai qu'il suffirait de faire un petit amendement Québec là-dedans, puis ça pourrait se régler sans être une perte de temps. Donc j'ai l'impression qu'on veut plutôt essayer de clarifier les choses. Qu'est-ce qu'on fait si Ottawa dit non? C'est ça la vraie question.
Ah.
Et là, ça va. Soit
T'as
Québec
trois
va être
options à nous présenter.
Ben soit Québec va être obligé de revenir un peu à la position plus audacieuse, celle de 2014. On va de l'avant, puis le code criminel c'est leurs affaires, mais nous on a une compétence puis on l'exerce.
On pourrait dire c'est la solution Yvon.
Oui,
en
tout à fait.
Avec Véronique Yvon qui elle-même comme juriste.
Exact.
De mener de façon extraordinaire cette bataille.
Deuxième hypothèse, puis là, on dirait qu'ils font un pas dans cette direction-là. C'est qu'en s'engageant dans le dialogue avec Ottawa, ben, ils vont être obligés de faire un pas de plus, puis peut-être de contester la loi fédérale. Soit sous l'angle du partage, soit sous l'angle des chartes. Il y aurait un point de vue québécois pour attaquer le code criminel, parce qu'à un moment donné, à force d'aller trop loin le fédéral là-dedans, il va finir par se mêler des questions qui ne relèvent pas de sa compétence. Et donc, la troisième option, ce serait de servir de tout ça pour finalement finir le dossier en queue de poisson par une espèce de moratoire de facto où Québec attendrait le fédéral comme on attend Godot dans la célèbre pièce de théâtre. Donc, il faudra voir, mais c'est intéressant de voir des élus débattre du partage des compétences, de leur interprétation respective. Et moi, ce qui m'intéresse le plus en ce moment, c'est le discours qui va accompagner le refus présumé d'Ottawa. Donc, qu'est-ce qu'ils vont dire? On refuse d'amender notre projet de loi parce que, comme dans le dossier du serment, on pense que Québec peut agir seul, puis on veut surtout pas le faire à votre place.
Ouais.
Ou, comme dans le dossier du cannabis,
ouais,
où le fédéral s'est fait donner tort, a finalement eu tort, là,
devant les
dans le dossier du cannabis.
Parce que, rappelle-nous, le cannabis, c'était quoi?
Mais dans le dossier du cannabis, le fédéral prétendait que c'est son code criminel qui devait l'emporter,
puis
que c'est sa façon de voir le droit criminel, qu'il n'y avait pas de place pour l'autonomie provinciale en dehors pour compléter le dispositif du code criminel.
Mais les tribunaux ont dit que c'était pas vrai.
La position cannabis du fédéral a été contredite par la Cour suprême dans un arrêt récent. Et moi, j'aime croire, je peux me tromper, que si le dossier aide médicale à mourir allait en Cour suprême sur le problème qui est devant nous, on aurait peut-être une décision semblable à celle du cannabis, et ça serait un précédent intéressant pour les compétences du Québec.
Ça serait le cannabis bis.
Oui.
Autrement dit, c'est ça, c'est toute la question du partage des compétences qui est parfois contournée par Ottawa avec le droit criminel. C'est grâce au droit criminel, ils réussissent à c'est-à-dire les gens du fédéral réussissent à s'ingérer dans une compétence du Québec.
Tu connais la légende du roi Midas, tout ce que le roi Midas touche devient de l'or.
Oui.
Mais dans le fédéralisme canadien, dès que le fédéral veut criminaliser quelque chose, ben ça devient de compétence fédérale. Et en créant des exemptions de responsabilité criminelle, ben il peut régir des régimes. Par exemple, sur la procréation assistée, il y a eu un long litige où la Cour a mené à la tracer une ligne, ben elle dit là, vous faites du droit de la santé déguisé, arrêtez, c'est du droit criminel. Et là, Ottawa va devoir apprendre à se calmer sur sa prétention à régir les moindres détails de l'aide médicale à mourir.
Mais c'est dommage qu'au gouvernement de la CAQ, qui se dit nationaliste, autonomiste, on n'ait pas le réflexe de dire, c'est du droit criminel, c'est-à-dire c'est du droit de la santé déguisé, ce que vous faites, puis ce sera à nous de décider, un peu comme ce que Véronique Yvon a dit il y a quelques années.
Mon cœur est partagé. Leur réflexe de la prudence me déçoit, mais leur engagement dans un dialogue avec Ottawa pour défendre les intérêts du Québec me réjouit. Alors, je suis un peu partagé par tout ça.
Ben, c'est un bon mot de la fin, cher chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. On se parle, espérons-le, la semaine prochaine.
Au plaisir.
À bientôt, merci.
Là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.